Vivante Église, reportage. Avec Marie-Pierre Pavlak.
Priez pour nous. Priez pour nous.
Pour prier leur saint patron et se recueillir sur son tombeau, ils sont venus nombreux. Très nombreux. Ce vendredi 29 novembre, autour de Mgr de Quérimel, les Toulousains célébreront Saint Saturnin, premier évêque de la ville. En procession depuis l'église Notre-Dame du Thor jusqu'à la basilique Saint-Sernin, un grand nombre d'entre eux, chacun avec son histoire, son cheminement, sa quête, se retrouveront pour faire mémoire du martyr, de celui qui a posé les fondements de l'église toulousaine. À quelques jours de cette fête, je vous propose aujourd'hui de réécouter, dans sa version longue, un reportage réalisé en 2019. 17h30, en ce 29 novembre. Nous sommes dans l'église Notre-Dame du Thor, juste avant la célébration des vêpres grégoriennes.
Claudine, un saint patron par rapport à une église, d'accord, mais là, Saint-Sernin, Saint-Saturnin, c'est Toulouse. Donc avec tout ce que ça révèle de l'histoire de Toulouse, voilà, puisque c'est le début de la chrétienté. Donc c'est le premier évêque, donc voilà, au-delà de après Saint-Sernin, c'est pas notre paroisse en plus, ici on vient parce que c'est la fête de Saint-Sernin, voilà.
C'est le diocèse, hein. L'église diocésaine.
Oui, voilà, mais Saint-Sernin, moi je m'y suis mariée, donc voilà, c'est un peu... Et puis c'est par rapport à l'histoire de Toulouse, je trouve, voilà, c'est le premier évêque de Toulouse, à l'époque...
Oui, c'est le symbole.
Voilà, c'est le symbole. À l'époque des Romains, donc il a été tué et martyrisé, voilà, donc c'est ça. C'est l'histoire de Toulouse, j'aime l'histoire, c'est pour ça. Mm-hmm. Et toi, Chantal ?
Moi, c'est pareil, pour moi, c'est le symbole, ça représente Toulouse. Bon, et puis comme on est quand même des Toulousaines de longue date, Saint-Sernin, pareil, moi j'ai fait ma communion solennelle, donc ça représente beaucoup de choses.
Il y a un attachement.
Et les reliques pour vous, quel sens ça a pour vous, les reliques ?
Les reliques, elles sont à Saint-Sernin, bon, mais c'est le symbole aussi, c'est le symbole, voilà. Je suis chrétienne, mais je ne suis pas une chrétienne très pratiquante, mais voyez, je suis là ce soir, voilà, parce que c'est important, c'est par rapport à l'histoire, par rapport au début de la chrétienté, voilà, après...
Alain, oui. Écoutez, je suis de religion catholique, donc je suis attaché aux traditions de cette église. Saturnin, c'est le saint patron de Toulouse, dont l'histoire est bien connue, et donc je viens un peu par tradition.
Pour faire partie peut-être de toute une communauté, vous sentez ce soir faire partie de toute une communauté? Ah,
bien sûr, oui, bien sûr, faire partie de la communauté, mais...
Eddy. Alors, je suis arrivé à Toulouse l'an dernier pour mes études, et c'est vrai que c'est la paroisse qui était la plus proche de chez moi, donc je commence à venir régulièrement, et c'est vrai que la solennité de Saint-Sernin, c'est un temps fort donc, de la paroisse, et la première fois que j'y ai participé, j'ai trouvé cette solennité incroyable, et donc cette année, je ne me suis pas privé de revenir.
C'est un saint que vous connaissiez auparavant ?
Oui, au travers de l'histoire de Toulouse, mais sinon, pas particulièrement.
Théo ?
Oui.
Moi j'étais venu aussi l'an dernier, j'avais loupé les vêpres pour le coup, j'avais fait que la procession et la messe à Saint-Sernin, ça m'avait beaucoup plu et j'avais jamais fait de procession avant, du coup je me suis dit j'allais revenir. Et vu que c'est vraiment à côté, ça serait quand même bête de pas venir, quoi.
Donc ce soir c'est un office qui rassemble, qui fédère, c'est le saint patron du diocèse, un saint donc, qui fédère et qui rassemble peut-être.
Oui, parce que... Les catholiques, croyants, pas forcément pratiquants, viennent du coup assez peu à la messe. Et de fait, quand il y a des grandes occasions, comme Noël ou Pâques, ou Saint-Sernin, ils viennent et du coup, c'est l'occasion aussi pour de fédérer un peu la communauté.
Mais qui est réellement Saturnin ? D'où venait-il ? comment, pourquoi et comment apparaît-il dans l'histoire de Toulouse, ou plutôt de Tolosa? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, je retrouvais quelques heures plus tôt, place Esquirol, à Toulouse, où il m'avait donné rendez-vous, Philippe Foreau, diacre à Saint-Sernin, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Philippe Foreau, une voix familière de cette antenne qui, chaque semaine, nous ouvre les fenêtres de l'histoire. Avec lui, mettons nos pas dans ceux de Saturnin. Et aujourd'hui, tout commence ici, place Esquirol. Mais pourquoi place Esquirol?
Oh, tout simplement parce que c'est sur ce lieu, sur ce forum de la ville antique, qu'a eu lieu la mise à mort de Saturninus, de Saturnin, en 250 de notre ère, bien sûr. Et effectivement, cette place Esquirol était la place centrale de la ville. Et il y avait en particulier le temple qu'on appelait du Capitole, où il y avait la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Et si on lit la Passion de Saint Saturnin, qui nous raconte le martyr, c'est en traversant l'actuelle place Esquirol, donc le forum, qu'il a été interpellé par la foule et qu'il a subi finalement le martyr, lié sans doute plutôt à un lynchage public, à une décision de justice. Le texte nous dit qu'il venait de la zone qui correspond à peu près à l'entrée du pont neuf actuel, où à l'époque antique il y avait un théâtre de 5 à 6 000 personnes, et il allait avec un prêtre et deux diacres vers, nous dit le texte, le lieu où se retrouvent les chrétiens pour prier. Alors ce lieu est sans doute, très probablement, le lieu où se trouve la cathédrale Saint-Étienne aujourd'hui. Parce qu'en fait, il allait remonter ce qu'on appelle en latin le Decumanus, c'est-à-dire traverser la place Esquirol, le forum, et remonter l'actuelle rue de Metz, qui correspond au Decumanus, une des grandes allées de la ville. Et il est fort probable que dans la zone de l'actuelle cathédrale, il y avait un titulus, c'est-à-dire une maison, où les chrétiens, mais cette petite communauté toulousaine, qui est très difficile à évaluer, c'est quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, c'est très difficile, se réunissaient pour prier. Et là, il a été pris à partie au moment où on a sacrifié un taureau devant le temple.
Alors, à quoi ressemblait Tolosa? Quel était le visage de cette cité? Donc, c'est début 3e siècle, vers 250 à peu près, oui, quand Saturnin arrive à Toulouse.
Oui, la mort de Saturnin, c'est 250. Donc, il est peut-être là depuis quelques mois, peut-être un ou deux ans, ça c'est impossible à dire. Alors, à quoi ressemble Toulouse au milieu du 3e siècle? D'abord, c'est une colonie romaine, c'est une ville romaine depuis Dioclétien, Domitien, elle a un statut de colonie romaine, mais elle a été sans doute fondée dans un premier temps par Auguste. Et elle est entourée d'un rempart. Ça, c'est une originalité, parce qu'à l'époque de Claude, vers 40-50 après Jésus-Christ, elle est entourée d'un rempart dont on voit quelques traces du côté du Palais-Niel, du côté de l'état-major. Et ces remparts englobent une superficie de 90 hectares. Alors, la population chiffre, alors là, très sujet à caution. On peut imaginer qu'au 3e siècle, enfin au milieu du 3e siècle, c'est entre 15 et 20 000 habitants. Si on prend la marée haute, c'est-à-dire 20 000, ça situe Toulouse parmi les grandes villes moyennes de la Gaule romaine. C'est-à-dire que devant elle, il y a Lyon, Vienne, Narbonne, Nîmes, Marseille et ensuite sans doute Toulouse. Donc, allez, disons 20 000 habitants à l'époque de Saturnin, au grand mot.
Hein. Vous m'avez dit, ici, nous sommes sur le forum.
Oui, nous sommes sur le forum. Comme toute cité romaine, il y a une place centrale qui est le forum. C'est vraiment un lieu de sociabilité où vous avez la curie, c'est-à-dire là où se réunissent finalement les notables de la cité. Il y a donc le temple, sans doute donc un temple à Jupiter. Et donc c'est un lieu effectivement où on pratique le culte impérial, le culte à l'empereur, qui est un élément justement de fidélité, où on prouve sa fidélité à l'empire et au souverain par la participation à ce culte. D'où d'ailleurs la difficulté pour les chrétiens. Parce que Saturnin va mourir au moment où il y a eu un édit impérial qui a été ordonné par l'empereur Dèce, qui demandait à tous les habitants de l'Empire de montrer leur fidélité en sacrifiant aux dieux traditionnels de Rome et en faisant le culte impérial. Or, ce type de pratique ne correspond pas évidemment à la foi chrétienne, parce que sacrifier à Jupiter, ça ne signifie rien pour un chrétien. Et le culte impérial pose problème aussi, parce que si les chrétiens sont pour l'immense majorité de bons sujets loyaux de l'empereur, ils ne le considèrent pas comme une divinité à adorer. Et donc, évidemment, le culte impérial, où il faut brûler un peu d'encens, par exemple, au pied de la statue de l'empereur, leur pose des problèmes. Et c'est visiblement dans ce contexte très précis que Saturnin va subir le martyre, puisque quand il est interpellé par la foule à quelques mètres de nous, là, près du temple, il va refuser, finalement, de sacrifier. Et comme on l'accuse d'avoir fait taire les dieux anciens, les dieux traditionnels, alors, faire taire les dieux traditionnels, c'est sans doute que comme on sacrifiait les animaux et qu'on lisait les entrailles, ces entrailles ne disaient plus grand-chose. Enfin, en tout cas, elles n'étaient plus très lisibles par les prêtres traditionnels. Et c'est ce que veut dire peut-être le texte en disant qu'il les avait fait taire, finalement. On avait du mal à lire dans les entrailles. Et donc, c'est parce qu'il refuse ce sacrifice qu'il va être pris à partie et jusqu'à la mise à mort.
C'était les tout débuts de cette ère chrétienne.
À Toulouse, on présente Saturnin comme le premier évêque, le premier chef de la communauté. Donc cela veut dire que le christianisme à Toulouse est extrêmement récent. En Gaule, on a des traces du christianisme au second siècle. Par exemple, à Lyon et à Vienne, il y a des martyrs en 177. Donc il y a une présence chrétienne à ce moment-là. On sait qu'à Rome, il y a une communauté assez rapidement, puisque Paul écrit une lettre aux Romains. Mais pour la Gaule, pour l'Espagne, la christianisation se fera de manière plus lente et plus tardive. Donc, pour Toulouse, on est vraiment au tout début de la foi chrétienne dans la ville, sans doute. Et d'ailleurs, on se demande aussi d'où vient ce Saturnin. Parce que finalement, on connaît bien sa mort, mais on connaît très peu ce qui précède la mort. On est bien incapable de vous dire à quel âge il est mort. D'où il vient ? Alors, Grégoire de Tours nous dit qu'il est envoyé par le pape Fabien, qui est donc le pape du milieu du IIIe siècle, pour évangéliser. Mais est-ce qu'il vient de Rome directement ou est-ce qu'il a d'autres origines ? Or, son prénom, Saturninus, le fils de Saturne, il se trouve que ce prénom est assez répandu dans la province d'Afrique, c'est-à-dire notre Tunisie actuelle. Est-ce à dire que Saturnin est venu à Toulouse d'Afrique, en passant par Rome? En tout cas, il n'est pas forcément originaire de la région du tout. Il est probable que, comme l'Afrique était une province plus christianisée que la Gaule, il y ait eu des missionnaires ou des propagateurs de la foi qui soient venus de la province d'Afrique.
Vous nous parlez de Grégoire de Tours. Grégoire de Tours, c'est bien plus tard.
Oui.
Donc c'est un chroniqueur.
Tout à fait.
Qui s'appuyait, lui, sur quel document, sur quelle source, et vous-même aujourd'hui?
Alors en fait, Grégoire de Tours, oui, c'est un auteur du VIe siècle qui nous raconte la christianisation de la Gaule. Donc lui-même pouvait s'appuyer sur des chroniques, peut-être aussi sur des textes hagiographiques chrétiens. Quant à nous, sur Saturnin, nous disposons de sa Passion, qui vient d'être réétudiée et réexaminée par un de mes maîtres en histoire antique, qui est Jean-Marie Payet, et qui a écrit un livre justement sur Saturnin. Et en fait, ce texte est daté d'environ 430-440 et nous donne des renseignements sur la fin de la vie. Mais c'est sûr qu'ensuite, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'incapacité de dire aussi bien l'âge que l'origine exacte, l'origine sociale, hein, de quelle famille il vient, etc. Donc en fait, nous sommes assez limités. Mais par contre, nous avons de l'archéologie qui peut nous renseigner sur la ville de Toulouse au IIIe siècle. On sait par exemple que l'amphithéâtre de Purpan au IIIe siècle est agrandi, que c'est un amphithéâtre qui fait aux alentours de 12-15 000 personnes. On a une image relativement claire de certains aspects de la ville, le théâtre près du pont Neuf, la porte nord de la ville qui se trouvait au milieu de la place du Capitole, qui malheureusement a été détruite en une nuit en 1970. Donc l'archéologie nous permet de mieux connaître, mais avec des incertitudes bien sûr, la ville elle-même.
Il y a une trace ici, visuelle ou matérielle, du temple?
Alors, en fait, on a retrouvé des restes du temple lorsque l'on a creusé, ça devait être dans les années 1980, le parking de la place Esquirol. Et on a retrouvé des traces d'un temple qui était sans doute le temple capitolin. Alors d'ailleurs, j'en profite pour signaler que dans le texte de la Passion de Saint-Cernin, on nous explique que le taureau a été placé en haut de l'escalier et que donc d'ailleurs le saint va être lui-même attaché donc à ce taureau et traîné, et que les marches des escaliers, il va les dévaler. Or ça c'est sans doute faux, c'est-à-dire que le taureau était plutôt en bas des escaliers. Parce que vous avez essayé de faire monter un taureau en haut d'un escalier, l'autel où les sacrifices se trouvent en bas du temple et non pas en haut de l'escalier. Donc là, il est probable que, de toute manière, l'auteur qui a écrit la Passion de Saint-Saturnin, dont nous ignorons l'identité exacte, ne connaissait plus très bien l'organisation du temple païen. Et d'ailleurs, le temple lui-même a été sans doute détruit au 4e, début 5e siècle, le temple dit du Capitolin. Et donc, le taureau, oui, parce que c'est un sacrifice prestigieux, mais on ne l'a jamais fait monter en haut de l'escalier, parce que ça ne se faisait pas, tout simplement. On sacrifiait en bas des escaliers. Et les fidèles, à la différence des chrétiens qui rentraient dans l'église, ou plus tard, les fidèles ne rentrent pas dans le temple. Le sacrifice se fait donc à l'extérieur, à la vue de tous. Et donc, Saturnin passe au mauvais moment, je dirais, sur le forum, puisque c'est le moment d'un sacrifice. Et que là, il est pris à partie par la foule. Et le texte nous dit, le prêtre et les deux diacres s'enfuient. Bon, laissant leur évêque à son sort.
Vous vouliez nous parler, nous dire, peut-être faire tomber des idées toutes reçues, Philippe Foreau, quant à la tolérance, ou une certaine tolérance du monde romain vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de toutes les religions.
Vis-à-vis de toutes les religions. Le monde romain est un monde polythéiste, où il y a une religion, disons, traditionnelle et officielle, qui est le polythéisme romain. Mais après, le romain est tout à fait ouvert aux cultes orientaux, par exemple le culte d'Isis, de Cybèle, de Mitra, etc. Bon. La religion juive elle-même bénéficie d'une tolérance, sauf évidemment quand les juifs se révoltent, mais comme elle est très ancienne et que le romain aime la vieille tradition, il ne comprend pas tout dans la pensée juive, il ne comprend pas ce monothéisme, mais il respecte tout de même cette tradition très ancienne du monde juif. Et les juifs ne prient pas l'empereur, mais ils prient pour l'empereur. Donc il y a une relative bonne entente, je dirais, entre les autorités juives et Rome, sauf qu'évidemment, quand il y a la grande révolte, par exemple, de 66, on va détruire le temple à Jérusalem. Bien. Le christianisme, ce qui pose problème, c'est que c'est un nouveau venu. Il est tout récent, il vient d'apparaître, je dirais, dans le paysage religieux. Et donc, il n'a pas ce lustre de tradition qu'avait le judaïsme, par exemple. Et donc, en fait, l'autorité romaine, qui ne comprend pas sans doute tout à fait la foi chrétienne, se méfie d'une religion qui ne rentre pas dans les moules traditionnels, qui refuse, par exemple, de participer aux cultes traditionnels dans les villes, qui ne participe pas aux fêtes civiques que représente la vieille religion. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir des persécutions. Mais ces persécutions, pendant longtemps, elles sont ponctuelles et localisées. Par exemple, la persécution de Néron au moment de l'incendie de Rome, c'est que la ville de Rome. Au second siècle, il y a des persécutions, par exemple, au début du siècle, à Nazie, avec Pline le Jeune. Mais ça touche une province, par exemple. À Lyon et à Vienne aussi, c'est très localisé. À Carthage, en 203. Et puis Dèce, donc, au moment de l'édit dont je parlais tout à l'heure. Alors là, par contre, vous avez, pendant quelques mois, peut-être une année, une persécution générale, mais qui n'est pas la plus brutale. Il y en aura une seconde persécution générale en 258, sous l'empereur Valérien, et puis la plus rude, celle qui a tué, alors là aussi on n'a pas de chiffre exact, mais peut-être plusieurs milliers de personnes, c'est lors de la persécution de 303, faite par l'empereur Dioclétien, où là pendant 2 années, et dans certaines provinces d'Orient, plusieurs années, une dizaine d'années, là, est très sévère. Mais il faut voir, par exemple, que vous avez entre Valérien 258 et Dioclétien 303 ce qu'on appelle une paix de l'Église, où les chrétiens ne sont pas dérangés et où l'Église va prospérer et se développer. Donc ne faisons pas du monde romain une espèce de totalitarisme antichrétien du début à la fin jusqu'à Constantin. C'est faux. Il y a eu des grands moments difficiles, rudes. Il y a eu évidemment des martyrs. Mais le christianisme a pu prospérer aussi parce que de temps en temps, et même assez régulièrement, il était tranquille et il a pu se développer.
Que nous venons de prendre donc, voilà, la rue des Champs, et vous nous dites le cardo. Le cardo, c'est quoi?
Oui, alors le cardo, c'est... tout à l'heure, j'ai parlé du Decumanus. Le Decumanus, donc, est une des grandes voies romaines qui passe de l'ouest à l'est, ou inversement. Et là, nous sommes sur le cardo, c'est-à-dire la voie romaine, la rue romaine, qui allait du sud au nord. Donc, ça partait à peu près, si vous voulez, de l'emplacement, grosso modo, de la place du Parlement, près du Palais de Justice. Elle remontait... vers la rue des Filatiers, la rue des Changes, la rue Saint-Rome, et elle arrivait jusqu'à la porte nord de la ville qui se trouvait au milieu de l'actuelle place du Capitole. Et ensuite, vous aviez une zone de cimetière, et c'est très important la zone de cimetière, parce que c'est là où on va mettre le corps de Saturnin. Une zone de cimetière qui se trouvait donc au nord, dans toute la zone de la basilique Saint-Sernin, car la loi romaine interdit de mettre les corps des défunts dans la ville. Ça, c'est une différence fondamentale avec, par exemple, les villes médiévales qui vont accueillir les morts près des églises et au cœur des villages et des villes. Alors que la loi romaine fait interdiction de placer les corps des défunts dans la ville. Donc les catacombes à Rome sont, par exemple, à l'extérieur hors des murs. Et donc, vous passiez la porte nord, et puis vous arriviez dans la zone des cimetières où se trouve l'actuelle basilique Saint-Sernin. Et il est fort probable d'ailleurs que le corps de Saturnin, qui est, nous dit le texte, récupéré par les saintes puelles, par des femmes dont on ne connaîtra jamais l'identité, n'a pas été déposé à la basilique Notre-Dame du Thor, à l'église Notre-Dame du Thor. Parce qu'il y a une tradition toulousaine qui explique. Or là, on a fait des sondages archéologiques, on n'a rien trouvé comme trace funéraire à l'emplacement de l'église. Et il est probable, tout simplement, et d'ailleurs c'est presque logique, qu'on ait déposé dans la zone des cimetières, un peu plus loin, la dépouille de Saturnin. Et que la mémoire chrétienne ait gardé, évidemment, le lieu de la sépulture du saint martyr. Qu'ensuite, on a fait une petite église au IVe, et puis à partir du Ve siècle, une église plus grande, qui elle-même a été détruite au profit de la basilique que nous connaissons à partir des années 1070, le chantier.
Mais la ville de Toulouse a gardé la mémoire de ce moment ou de ce lieu où, puisque, comme vous nous dites, plus tard, une petite église, et puis aujourd'hui, cette belle église de Notre-Dame du Thor est érigée en ce lieu, Notre-Dame du Thor, donc en relation, bien sûr, avec Saturnin.
Oui, avec la mémoire du taureau, disons. Mais oui, alors le texte de la Passion nous explique que la tête aurait, je dirais, été fracassée par les heurts, les secousses liées au fait qu'il était attaché au taureau, et même qu'un morceau de cervelle est sorti du crâne. Enfin, voyez, on ne nous épargne aucun détail. Et alors oui, Notre-Dame du Thor garde le souvenir du taureau, du martyr par le taureau. Le débat portait plutôt sur... Est-ce qu'il y a eu, au tout début, la sépulture de Saturnin à l'emplacement de Notre-Dame du Thor? Disons qu'il est fort probable que non. Et que tout simplement, il ait été amené vers la basilique Saint-Sernin dès sa mort.
Basilique qui n'existait pas à ce moment-là. Non. Parce que là, on extrapole.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la basilique elle-même... Le terme basilique, d'ailleurs, ne lui est donné à l'abbatiale Saint-Sernin qu'en 1878, par le pape Léon XIII. Donc c'est relativement récent. Mais, vous savez, entre la mort en 250 et le fait que la religion chrétienne soit religion autorisée, religio licita, c'est un gros demi-siècle. C'est pas très très long non plus dans la mémoire des hommes, puisque 313, c'est 313. Donc 250-313, c'est disons trois générations. Donc le lieu de la sépulture est gardé par la communauté chrétienne, parce que c'est un lieu qui va être vénérable au sens strict du terme. Et donc au IVe siècle, donc le siècle de Constantin et des empereurs chrétiens, il va y avoir la construction d'une petite église, mais bon, qui elle va être remplacée au Ve par une église un peu plus importante, dont on a des traces d'ailleurs au niveau du cœur de l'actuelle basilique Saint-Cernin. Et cette église du Ve siècle va durer jusqu'à la fin du XIe, c'est-à-dire quand dans les années 1070, les chanoines de l'abbatiale décident d'ériger la superbe église que nous avons aujourd'hui.
Je crois que c'était l'église Saint-Exupère. Les restes donc de Saturnin sont déposés dans cette petite église. Comment ça se passe? De la tombe, on va dire, de la tombe à l'église Saint-Exupère et puis ensuite ici à Saint-Cernin, au tombeau de Saturnin.
Il me semble que les restes mortels de Saint-Cernin n'ont guère bougé, ils ont pris la hauteur, parce qu'ils ont été finalement sortis de la crypte originale et de l'église romane. Puis, si j'ai bonne mémoire, au milieu du XIIIe siècle, on va réaménager la crypte, et d'ailleurs elle va devenir maintenant une crypte de style gothique, et le sarcophage va être mis à la vue des fidèles. Et tel que nous le voyons aujourd'hui dans le sanctuaire, il a été baroquisé. Parce que dans les années, à partir de 1718-1720, il va y avoir un travail de baroquisation du cœur de la basilique, avec le baldaquin, avec donc le tombeau lui-même qui va être baroquisé. Et c'est la dernière étape que nous avons. Mais vous voyez, il y a eu, je dirais, toute une série d'étapes stylistiques sur le plan de la tombe elle-même.
Donc, Saturnin, premier évêque de Toulouse, comment Saturnin est devenu donc le saint patron de la ville de Toulouse?
D'abord, si j'ose dire, sa mort fait qu'il est un témoin majeur, parce qu'évidemment, il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont accepté de prendre le risque de la mort pour témoigner de leur foi. Donc, évidemment, c'est ce culte des martyrs qui va se développer assez vite dans l'Antiquité chrétienne, fait de Saturnin une figure remarquable au plein sens du terme. Puis ensuite, vous avez parmi les autres grandes figures des débuts du christianisme à Toulouse, des personnes comme Saint-Hilaire, Saint-Exupère, qui vont magnifier la figure de Saturnin. Puis, il faut bien dire ensuite que toute une série de textes hagiographiques du haut Moyen-Âge vont faire de Saturnin un saint guérisseur. Un saint qui finalement a des vertus toutes particulières. Et donc va se développer un phénomène de pèlerinage sur la tombe du saint évêque. Mais on retrouverait ça ailleurs dans la Gaule franque, Martial à Limoges par exemple, ou Trophime à Arles, où vous avez effectivement un phénomène un peu comparable, puisque c'est cette génération, disons, d'évangélisateurs que l'on va honorer et vénérer dans la Gaule franque. Et puis ensuite, il y a un phénomène, évidemment, mais alors là, qui dépasse le cadre de notre émission, c'est le phénomène Saint-Jacques de Compostelle. Parce que le pèlerinage va faire que Toulouse va être une des étapes, même si les spécialistes de Saint-Cernin médiéval, je pense à Daniel et Kitricaz, par exemple, insistent sur le fait qu'évidemment, le phénomène des chemins est à prendre avec prudence, parce que ce n'était pas des chemins aussi organisés, évidemment, que nous les connaissons aujourd'hui. Qui plus est, les chanoines de la Bastiale Saint-Cernin, ils avaient intérêt de garder un peu les pèlerins sur place, parce qu'il y avait une économie du sanctuaire aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une économie autour de la tombe qui faisait vivre finalement commerçants, aubergistes, hôtelleries. Le musée Saint-Raymond actuel au XIIe siècle, c'est un hôpital où l'on s'occupe des pèlerins qui peuvent tomber malades, qui se sont fait mal, qui sont blessés. Et donc vous avez quand même intérêt aussi à ce que Saint-Cernin garde au maximum les pèlerins avant qu'effectivement ils puissent repartir vers le chemin de Saint-Jacques. Parce que quand vous êtes un Italien au Moyen-Âge, mettons, un Languedocien, un Marseillais, pour aller en Espagne, vous passez par la route, par le chemin qui traverse le Languedoc et qui arrive à Toulouse. Et donc là, vous avez ce lieu de prières autour des reliques de Saturnin et de tous les autres saints, puisque Saint-Cernin va rassembler énormément de pièces reliquaires et de reliques. Or, dans la mentalité du chrétien médiéval, finalement, la relique, c'est le signe visible de quelqu'un qui a été dans l'amitié de Dieu, qui a été proche de Dieu et qui peut servir d'intermédiaire, d'où cette importance du culte des saints et des reliques, évidemment. C'est un bon intermédiaire entre Dieu et celui qui vient prier, finalement, sur la tombe du saint.
Et Saint-Cernin, donc, alors quelques années après sa mort, on va dire peut-être même 100-200 ans plus tard, il a une grande aura, vous nous dites rapidement, un centre de pèlerinage qui attirait énormément de monde. C'était un grand centre de pèlerinage ?
Ah, ça, c'est, alors, grand centre, évidemment, reste à définir ce qu'on appelle le grand centre. Mais enfin, c'est un centre de pèlerinage. Parce qu'en plus, comme on l'a souligné tout à l'heure, il n'y a pas que les reliques de Saturnin. Il y a les reliques d'énormément de grands saints, de saints apôtres. Il y a la découverte, comme l'on dit, des reliques de Saint Jacques. Il y a Saint Simon, Saint Gilles, Saint Philippe. On en voit de Rome des reliques de Pierre et Paul qui sont dans le déambulatoire. Donc effectivement, il est indéniable que dans la mentalité du pèlerin médiéval, la présence de ces multiples reliques. Peut-être que nous avons un centre parmi les plus riches de l'Occident chrétien en matière de reliques, attire le pèlerin. Et donc oui, c'est un centre important. Alors évidemment, ce n'est pas le pèlerinage à Rome, Jérusalem ou Saint-Jacques. Mais en tout cas, c'est un lieu qui a été fréquenté indéniablement par le petit peuple chrétien qui venait soit pour prier sur la tombe de Saturnin ou pour faire halte, prier, se reposer et repartir vers Saint-Jacques.
Et d'ailleurs, il me semble qu'il, du moins ici dans la région, il y a alors une multitude, le terme est peut-être trop important, mais un certain nombre d'églises qui portent le nom de Saint-Cernin aussi.
Oui, dans le Grand Sud-Ouest et même au nord de l'Espagne. Il se trouve qu'il y a c'était il y a une quinzaine de jours, il y a des Espagnols qui sont passés à Saint-Cernin à la fin d'une messe et qui m'ont dit « mais il est en Navarre aussi ». C'est-à-dire qu'il y a des églises de Navarre qui ont le nom de Saint-Cernin. Donc effectivement, on lui prête d'avoir évangélisé le Grand Sud-Ouest et le nord de l'Espagne. Bon, historiquement, on peut en discuter, est-ce qu'il a eu cette terre aussi importante, ou est-ce que, disons, que son rayonnement post-mortem a fait qu'il a donné sa... jusque, je crois, en Auvergne, des noms à des lieux de culte. Voilà. Mais difficile de dire, comme je le disais tout à l'heure, la biographie de Saint-Cernin avant son martyr est difficile à établir. Il fait partie de ces hommes qui ont indéniablement aidé à propager le christianisme, mais dont on ne peut pas demander une biographie exhaustive.
Il entre un peu dans la légende dorée ou pas ?
Alors il peut y avoir, bien sûr, il y a sans doute une légende dorée liée à des textes, effectivement, de l'époque mérovingienne, des textes hagiographiques qui veillent à surévaluer le rôle du saint. Mais les historiens, je pense donc à Jean-Marie Payet que j'évoquais tout à l'heure, justement, disent il y a une hagiographie autour de Saint-Cernin, mais ça ne supprime pas l'idée qu'il y ait eu un Saint-Cernin qui a été un de ses chefs de communauté, comme dans tout l'Empire romain, au moment où le christianisme prend son développement, finalement.
Et de Saturnin à Saint-Cernin, l'évolution du mot ?
Oui, alors là, je dois avouer que je ne suis très bon linguiste. Je pense qu'il y a une occitanisation, finalement, en Cernin, du mot latin Saturninus. Mais le mot originel, c'est Saturninus, ou Saturnin francisé. Et là, on arrive à peu près, voyez, on est à peu près au milieu de la place du Capitole, c'est-à-dire au lieu de la porte nord de la ville, qui a donc été détruite en 1970 au moment du creusement du parking du Capitole. Et on a détruit cette porte. Il n'en reste plus rien. Mais mon maître Jean-Marie Payet, il ne s'en est jamais remis de la destruction de la porte. Et il en parle toujours avec beaucoup d'émotion.
Alors là, voilà, nous quittons la place du Capitole, nous remontons donc la rue du Top.
Et voilà, là, on vient de quitter la ville romaine. on est presque à la campagne, si j'ose dire, c'est hors de la ville, et il va y avoir donc la zone des cimetières. D'ailleurs, cette zone sert de lieu de sépulture jusqu'au XVIIIe siècle, donc pendant très très longtemps. Dès qu'on fouille un peu, d'ailleurs, on arrive vite au niveau de tombes, et on trouve assez rapidement des squelettes de défunts, hein, dans toute cette zone. Et donc, à l'époque romaine, nous sommes, si j'ose dire, un peu en campagne, c'est la porte nord qui mène vers Cahors. Hein, c'est la route qui mène à Cahors, alors que la porte sud du côté de Narbonne, c'est Narbonne, et puis, si j'ose dire, Rome, bon, plus loin. Et donc, au Moyen-Âge, va se créer un faubourg, le faubourg Saint-Cernin, autour, évidemment, du sanctuaire. Et là, va se développer, je dirais, tout un lieu d'accueil pour les pèlerins.
Alors, je crois que l'église est ouverte. On peut peut-être entrer. Donc ici, donc Notre-Dame du Thor, est-ce qu'il y a une représentation ?
En fait, effectivement, quand on rentre dans Notre-Dame du Thor, il y a une grande représentation du martyr. On voit le taureau et le corps de Saturnin, déjà, je dirais, un peu en dehors de la ville, et puis les saintes puelles qui vont récupérer le corps. D'ailleurs, les saintes puelles, effectivement, c'est un peu comme les femmes qui vont au tombeau pour le dimanche de Pâques. C'est-à-dire que le rôle de la femme pour au moment de la résurrection ou au moment de la sépulture de Saturnin est quand même fondamental. Alors donc, il y a une représentation extrêmement importante donc du martyr. Mais évidemment, Notre-Dame du Thor, c'est aussi un lieu important pour le culte marial, en particulier donc la Vierge du Rempart, que l'on dit du Rempart, qui se trouve dans le cœur de l'Église. Mais comme on le disait tout à l'heure, de là à dire qu'il y a eu ici la sépulture de Saturnin, ça c'est sans doute beaucoup plus discutable, puisque ce qu'on appelle les sondages archéologiques sous l'Église ont fait qu'il n'en a pas trouvé du tout de traces d'une quelconque sépulture. Donc, bon, Saturnin est allé directement là où il devait reposer jusqu'à aujourd'hui.
Et de l'église du Thor, nous nous dirigeons à présent vers la basilique Saint-Cernin, vers le tombeau de l'évêque martyr.
On est dans le transept sud, on vient de franchir le seuil de la porte des Comtes, et donc nous sommes dans le transept sud de la basilique, qui est réservé d'ailleurs à la prière. C'est pour ça qu'en général, ce n'est pas visité trop par les touristes de passage. Et donc, on entend d'ailleurs le bruit d'un aspirateur. On peaufine et la basilique pour les cérémonies de demain. Et donc, voilà, la vieille dame sera très présentable demain donc pour les cérémonies de la Saint-Cernin. Et puis, à quelques pas de nous, les piédis de Saint-Christophe, que les pèlerins touchaient en arrivant dans la basilique. Et oui, demain, on retrouvera peut-être aussi l'esprit séculaire de Saint-Cernin au travers de la procession et du tour des corsins que les fidèles, le clergé, notre archevêque feront. Ils feront tous ensemble ce tour des corsins. Et finalement, je pense que là, on retrouve véritablement ce que fut le Saint-Cernin, enfin, la basilique Saint-Cernin historique, véritablement. Parce que cette grande nef avec ses deux bas-côtés sont faits pour les processions. Nous voici devant les stalles des chanoines. Ce sont des stalles des années 1670, parce qu'il y avait eu un incendie en 1668 qui avait abîmé le cœur des chanoines. Et donc, ce sont des stalles des années 1670, donc nous sommes sous Louis XIV. Et puis, en face de nous, un peu plus loin, l'autel où on célébrera demain l'Eucharistie, où tous les dimanches on célèbre l'Eucharistie. Et ce qui est émouvant, là, c'est finalement que l'autel de Saint-Cernin remonte à la fin du XIe siècle. C'est là que le 24 mai 1096, Urbain II a célébré la messe. Et donc, là aussi, c'est la longue durée historique. Et derrière, nous avons le devant d'autel, nous avons l'autel baroque marbre, et le devant d'autel de Marc Arcis, où l'on voit le martyr de Saturnin. Et puis, le baldaquin, si j'ose dire à la romaine, comme à Sainte-Marie-Majeure ou à Saint-Pierre de Rome, et qui donc date des années 1720-1740, et le sarcophage baroquisé avec le saint au-dessus qui a ce geste finalement de, avec ce bras levé vers le ciel qui a été posé là, je crois, en 1759. Donc vous voyez, encore au XVIIIe siècle, on travaille finalement à Saint-Cernin. Et puis au-dessus du tombeau, ce Christ en majesté qui a été peint dans les années 1536-1542, entouré de part et d'autre du symbole des évangélistes.
Et nous refermerons ce reportage, émaillé très brièvement du répertoire du chant dit vieux romain, un brillant témoignage de l'univers musical de l'Antiquité tardive, avec l'historien Jean-François Payet, maître de Philippe Foreau, qui nous dit, dans un petit ouvrage que vous trouverez dans la basilique, qu'à travers les écrits de La Passion ou de divers hagiographes, la légende dorée s'est emparée de Saturnin, premier évêque de Toulouse, mais que ni les uns ni les autres n'ont pu faire oublier ce qu'a été le vrai, le simple Saturnin. Exemple, suggère-t-il, d'autres voix chrétiennes du refus, Saliège ou de Solages.